Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Le Congo-Kinshasa dans la longue durée, quel diagnostic ? Au Congo-Kinshasa, comme dans d'autres pays africains, les événements de toute nature, politiques, écologiques, économiques, culturels, s'enchaînent avec une telle vitesse que on perd un peu le nord. On est très souvent accroché à, au temps qui passe et on a aussi l'impression que quelquefois c'est toujours la même chose. Ce sont les mêmes acteurs que l'on voit, ce sont les mêmes questions qui se posent et ce sont les mêmes choix que les gens prennent. En réalité, nous savons que l'histoire ne se répète pas. Et les processus multiples se jouent devant nous sans que nous les voyons toujours. Ce sont des processus, comme disent les historiens, de longue durée ou de très longue durée. Processus qui insistent évidemment sur des événements douloureux que nous connaissons. Au Congo, par exemple, un Premier ministre assassiné, un Président de la République assassiné, des rébellions de toute nature dans la durée des 50 et 60 années d'indépendance. Mais il y a d'autres phénomènes, moins visibles, mais de phénomènes qui sont prégnants dans la société, qui structurent la société, les comportements, les mentalités. Et c'est à ce titre que nous recevons à nos micros un historien du Congo, historien très connu, bien sûr, par la nature et le nombre des livres qu'il écrit. Le dernier en date, d'ailleurs, en surprendra quelques-uns par le titre. « La saison sèche et pluvieuse, l'audace de dresser le front pour un autre Congo ». Professeur Isidore Ndaïwé Nziem, bonjour.
Bonjour.
Dans ce livre, vous citez un de nos collègues, un collègue de l'autre Congo qui est connu à l'échelle du continent, le professeur Théophile Obenga, qui dit ceci, « L'Afrique a besoin des hommes de conviction et d'audace, de qualité et de vertu, pour faire vivre de hautes ambitions, de hautes exigences et de hautes urgences. » Si la RDC est debout au travail, selon les exigences et les urgences de la renaissance africaine, alors c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique entière qui renaîtra à nouveau, pour elle-même d'abord, ensuite pour le reste du monde. Voilà de grandes ambitions.
Tout à fait. Et vous avez vu d'où j'ai tiré ce mot de « audace ». Donc non seulement j'y crois profondément, mais j'ai repris cette citation énoncée par notre collègue et ami Théophile Obenga à Kinshasa le 29 juin 2010 au Palais du Peuple devant les corps constitués de la République à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance nationale. Et je pense que c'est important de rappeler ces choses-là.
Les gens pensent en général que on commence l'histoire très au début des choses et que on descend le temps comme on descendrait le cours d'un fleuve. Or, les historiens ne procèdent pas toujours comme ça. Par exemple, dans ce livre, vous commencez par une question, qui sommes-nous ? Et que pouvons-nous être dans quelques années, par exemple en 2050 ?
Oui, parce que je crois profondément que l'historien n'est pas un antiquaire. C'est quelqu'un qui est profondément lié à la société et au présent. Je pense qu'il n'y a pas d'acteur du présent aussi important que l'historien. Il est là, il voit les choses, il observe les choses et il a une lecture de ces choses qui tient compte, bien sûr, du passé, mais également il a un second regard vers l'avenir. Et pour avoir tout de même réfléchi et écrit sur l'histoire de la RDC, je pensais qu'il était bon, à un moment donné, de faire un texte plus d'actualité, mais portant sur une lecture, je dirais, historique, mais alors dans ces trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir. C'était un peu l'ambition, c'était l'ambition de ce petit livre, mais j'ajoute que c'est un livre sans prétention scientifique. C'est un livre qui revient sur les données déjà existantes, mais qui propose une certaine lecture de ces faits-là.
Oui, c'est vrai que vous ne cherchez pas à introduire des documents nouveaux, des choses qui ne sont pas encore connues ou qui auraient été cachées, mais vous posez quand même... Ce sont des prises de position théoriques importantes. D'abord, l'idée qu'il y a toutes les chances que le Congo continue d'être. Or, beaucoup de gens ne sont pas convaincus par ça. Avec les guerres, les conflits, les identités locales, etc. Et vous posez la question aussi que les Congolais seront plus nombreux en 2050, ce qui est conforme à l'hymne national congolais qui dit « nous peuplerons ton sol », alors qu'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on insiste sur les violences, les morts, les maladies, ainsi de suite. Donc c'est une prise de position que justifie, je pense, votre expérience d'historien, puisque le Congo vient de loin et a connu déjà un grand nombre de désastres.
Ben, tout à fait. Les maîtres de notre discipline disent très bien que l'histoire n'avance pas seulement par la découverte de nouveaux documents, mais plus souvent encore par de nouveaux regards portés sur des documents déjà existants. Et c'est vrai que le Congo n'a pas dit son dernier mot. Loin de là, je pense que ça reste un pays très important en Afrique et dans le monde. Je prétends même que une page particulière de l'histoire mondiale s'exprime toujours ici au Congo, et donc il est important que les Congolais en prennent conscience d'abord en interrogeant leur passé et faire le point de leur héritage. C'est pour ça, sur ce premier questionnement, qui sommes-nous ? J'évoque bien sûr tous les paradoxes sur lesquels on ne reviendrait pas, qui sont liés à ce pays, à cette population, mais surtout cet héritage riche qui démontre qu'il y a des dynamiques qui ont toujours existé. Nous sommes souvent portés à tenir le discours misérabiliste, défaitiste, alors que lorsqu'on pense à notre histoire ancienne, lorsqu'on réfléchit au rôle que tenait tout simplement le chasseur, qui était l'homme qui n'avait pas le droit de baisser les bras lorsqu'il n'y avait plus de la nourriture carnée à la maison, qu'on soit ensemble ou individuellement, il devait se lever, prendre son arme, ses arcs, ses flèches, aller dans les bois, chercher du gibier, avec possibilité qu'ils ne reviennent plus jamais, parce qu'il peut y avoir un fauve qui le dévore, il peut s'égarer, mais voilà, il a un rôle à jouer. Et lorsqu'on constate l'histoire de nos royaumes anciens, nous constatons que c'est chaque fois, en fait, un chasseur qui s'est déplacé, qui a été ailleurs, et qui a rencontré d'autres civilisations, créé de nouvelles dynamiques. C'est toujours ce rôle-là. Et je pense que le Congolais contemporain doit renouer avec cette dynamique. Et cette dynamique, on le voit quelque peu sur le plan commercial. J'ai évoqué la situation où on constate quelquefois chez nous, la situation est tellement difficile. Nous voyons nos mamans, comme nous le disons chez nous, se retrouver dans des marchés, dans des villes lointaines, ne connaissant même pas la langue. Kwanzu, Istanbul, à la recherche des marchandises pour revenir au Congo, vendre et gagner un tout petit peu. Pourquoi ? Mais pour pouvoir nourrir la famille. Et donc il y a ce rôle-là. Et je pense que le Congolais d'aujourd'hui doit se dire que, quelle que soit la situation, il doit pouvoir travailler fort, lutter fort pour essayer de redresser la situation, même si à certains moments, il devient nécessaire d'aller à contre-courant pour pouvoir redresser la situation.
Il y a au Congo des drames importants. Tout le monde insiste sur la guerre, mais il y a aussi ce que vous appelez les conflits du quotidien qui apparaissent aussi bien en ville que dans les milieux ruraux. Il y a cette misère généralisée dont vous parlez, mais contre lesquelles les gens luttent. Et puis, il y a parfois des catastrophes. Récemment, nous sommes au mois d'octobre 2017, on a parlé d'un crash d'un avion, mais si on remonte dans le passé, il y a un autre crash d'un avion au début de l'année 1997. C'était déjà un avion Antonov qui n'a pas réussi à décoller et qui est tombé sur l'un des grands marchés de Kinshasa où les principales actrices étaient précisément les femmes. Notre collègue Yokalié a publié un texte. Elle prête à une jeune fille orpheline la parole pour qu'elle dise la douleur de perdre ainsi sa maman au milieu de l'indifférence générale et notamment de l'indifférence des responsables du pays.
J'étais une petite fille de 10 ans quand le drame s'est produit et j'étais présente sur ce marché maudit. Accompagner ma mère et l'aider à vendre ses paniers de maïs. Je vois encore comme un cauchemar un avion fou débouché sur le marché et explosé dans un tas de ferrailles, mais surtout de chair déchiquetée et de débris épars. Je me souviens m'être éloignée un moment de l'étalage de ma mère, et c'est en rentrant et de loin que j'ai assisté à la tragédie. Je me souviens avoir couru comme une folle du côté de l'étalage de ma mère. Plus rien, pas de maman, pas d'étalage. S'étalaient pêle-mêle par terre, corps décomposés, marchandises éparpillées, et tout ça sans dessus-dessous, au point que je n'ai pas retrouvé les traces de ma mère. C'est plus tard, ou bien plus tard, que j'ai pu reconnaître juste le pagne que portait ma mère, écrasé par un avion fou dans une mission de fou. Depuis plus de 10 ans, j'ai écrit lettre sur lettre à tous ceux qui se présentent comme garants de nos personnes et de nos biens, aux ONG, aux églises, rien. Pas de réponse. J'ai même écrit au ministre des Transports à l'époque du drame, puisque c'est quelqu'un qui a traversé allègrement tous les régimes depuis lors. Rien. Pas de réponse. J'ai même écrit au bon Dieu en personne par l'intermédiaire de mon pasteur. Rien. Pas de réponse. C'est pourquoi aujourd'hui je m'adresse à vous, femmes et hommes de bonne volonté. Je ne vous demande pas l'aumône et encore moins des droits. Non, je demande simplement qu'on se souvienne et que, surtout, l'on m'aide, ainsi que toutes ces nombreuses familles orphelines de 300 modestes marchands d'écrabouillés à faire correctement notre deuil.
Professeur Ndayuel, vous parlez de révolution. Oui, le mot est important, il a été beaucoup galvaudé à l'époque de la Deuxième République, mais vous parlez de révolution, de quelque chose de très profond. Alors, quel doit être, ou quels doivent être, ces processus qui conduiront à la révolution?
Je prends la révolution dans son sens étymologique, qui est donc un terme qui nous vient de l'astronomie, n'est-ce pas? Donc le fait de faire le tour complet autour du soleil, qui est donc le fait, je dirais, de retourner complètement quelque chose, l'envers devient l'endroit et l'endroit devient l'envers. Je pense que on est arrivé à un moment donné où il faut se prêter à cet exercice, c'est-à-dire une espèce de table rase totale, si possible, parce que jusqu'ici on a essayé de faire beaucoup de replâtrage, et je donne des exemples nombreux. Vous avez pris cette citation de notre collègue Yoka à propos de la mémoire où les différentes catastrophes produisant une mémoire qui n'est pas assumée. On peut aussi prendre d'autres exemples au niveau, par exemple, de l'architecture institutionnelle du pays, où nous avons hérité d'une organisation territorial assez sommaire. Je rappelle pour nos autres auditeurs francophones que ici la province est subdivisée en territoire, le territoire en secteur, le secteur en groupement, le groupement en village. Donc toutes ces entités de base se base tout simplement sur l'organisation qui a été faite pendant la période coloniale. Et depuis lors, des secteurs qui n'en sont plus, des groupements qui n'en sont plus, à certains endroits, ces entités, ces groupements se sont réduits à un individu, parfois à un village, des secteurs qui ont disparu. Mais lorsque nous sommes dans cette gestion, toujours par le haut, on parle des élections communales, des élections au niveau de ces entités, sans se rendre compte que ces entités ne sont plus évidentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer d'abord par une enquête générale pour réorganiser éventuellement ces entités avant d'aller là? Mais seulement, sur le plan politique, il est indispensable de dire voilà, puisqu'il y a des élections, puisqu'il y a ceci, nous allons faire cela. Il a même été question d'organiser les élections locales avant les élections présidentielles. Alors que tout le monde sait bien qu'au niveau des élections locales, c'est, et je reprends le terme d'un autre de notre collègue, Léon de Saint-Moulin, démographe, c'est tout à fait impossible, puisque ces entités n'existent pratiquement plus. Donc il y a là beaucoup de choses à revoir au niveau de notre façon de voir les choses. Il va être question, par exemple, de la diaspora. Quelles questions complexes au niveau de la diaspora, dès lors qu'on n'a aucune idée précise de ce que nous avons comme élément dans la diaspora.
Je précise qu'au moment de l'indépendance, il n'y avait pour ainsi dire aucune diaspora congolaise, puisque pendant la colonisation, les sorties du pays étaient extrêmement rares. Or aujourd'hui, c'est un groupe nombreux, très actif et qui contribue financièrement et socialement beaucoup à la survie de certaines personnes et à la vie du pays.
Tout à fait. Tout à fait, en 1960, il n'y avait rien. Quand vous et moi, nous étions étudiants à Paris, on était pratiquement les premiers en France. Et voilà. Donc, maintenant, notre diaspora est tellement importante qu'on peut estimer qu'il y a au moins 8 millions, 8 à 10 millions, si je m'en tiens aux chiffres que j'avais eu des affaires étrangères. Mais là-dedans, il y a à boire et à manger. Maintenant, il va être question de faire de l'enrôlement avec des questions aussi importantes comme celles dites de la nationalité. Comment est-ce qu'on va voir clair là-dedans dès lors que notre nationalité reste très frileuse en la matière et qu'il faille écarter tous les étrangers dites d'origine congolaise. Il y a là une question importante. Et puis il y a ce phénomène dit des combattants. Nombre de nos compatriotes qui ne se retrouvent pas dans les représentations diplomatiques qui sont en place. Donc voilà des questions extrêmement complexes qui démontrent que le pays est à organiser. Je n'oserais même pas dire à réorganiser, mais le pays est à organiser si on voudra aller plus loin, et nous devons absolument aller plus loin. Mais j'ajouterais quand même sur cette question que dans ce livre, j'ai quand même un paragraphe que j'ai intitulé « Les signes d'espérance ». Je pense quand même, il faut noter que malgré tout, il y a des choses qui marche, qui existe, et je pense qu'il faut partir de ces signes d'espérance pour aller plus loin.
Voilà comment procèdent les historiens. Ils parcourent un passé très très long, et quand ils arrivent au présent, ils ne regardent pas seulement au passé, parce que ce passé explique en partie le présent. Ils regardent aussi vers le futur, puisque le temps est l'objet sur lequel nous travaillons, le temps passé, mais aussi le temps à venir dans lequel nous apportons notre contribution. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'Université.